S'il vous plaît, je vous propose de reprendre. Avec notre dernier invité, donc, pour le séminaire d'aujourd'hui. Qui est un vieil ami, Marcel Benabou. Je ne le connais pas depuis 1966, mais
presque.
Presque. Il est professeur d'histoire romaine, ou il a été longtemps professeur d'histoire romaine juste à côté d'ici, à Paris 7, Jussieu, qui s'appelle maintenant Paris Diderot. Et ses travaux portent donc sur l'Afrique romaine. Mais si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est plutôt comme membre de l'Oulipo. Depuis très longtemps, il est entré à l'Oulipo en 1969, après son ami Georges Perec. C'est pour ça que j'ai évoqué Perec aujourd'hui. Et en 1966, avec Perec, il a conçu plusieurs projets pour l'Oulipo, l'un qui s'appelle PALF, Production automatique de littérature française, et l'autre LSD, littérature semi-définitionnelle. Alors je crois qu'aujourd'hui, mais j'oublie si c'est noté, il a de hautes responsabilités à l'Oulipo. Oui, si, j'ai bien les. Il faut que je vous les dise, les titres exacts. Depuis 2002, il est à la fois secrétaire définitivement provisoire, fonction qu'il occupe depuis 1970. Et il est également secrétaire provisoirement définitif, ayant remplacé Paul Fournel, qui est devenu président. Alors, vous connaissez sûrement certains de ses livres, je rappellerai au moins ceci. Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ? Très joli livre publié chez Hachette en 1986. Si mes souvenirs sont bons, c'était déjà chez Maurice Hollander.
C'était déjà chez
qui était
Maurice
chez Hollander. Hachette, qui avait commencé chez Hachette. Et puis ensuite, Jette ce livre avant qu'il soit trop tard, publié en 1992. Et bien sûr, il a collaboré à un certain nombre de travaux collectifs de l'Oulipo. À toi. Ah oui, il y a un titre qui est Oulipo, le tournant. Non, est-ce un tournant, 1966
oui. Oulipo, 1966, le tournant. Ben, un grand merci évidemment à Antoine pour son invitation qui me donne le plaisir de venir parler devant vous ici. Je dois le dire, particulièrement heureux que dans la vaste fresque qu'il a entrepris de dresser de cet annus mirabilis que fut à ses yeux, et je pense désormais au vôtre, l'année 1966, il est tenu à faire une place à l'Oulipo. Car ce groupe, je puis vous le dire en confidence, moi qui en assure depuis une quarantaine d'années le secrétariat, n'a pas toujours été à pareille fête. Je veux dire qu'il n'a pas toujours bénéficié, au cours de ses 50 années d'existence, d'une attention aussi bienveillante. Pour ne prendre qu'un seul exemple, des malentendus auxquels nous nous sommes parfois heurtés, je rappellerai qu'en 1982, Gérard Genette, homme honorable s'il en fut, dans quelques pages qu'il consacre à l'Oulipo dans son palimpseste, ouvrage par ailleurs aussi savant que plaisant, considérait encore l'oulipisme comme, je cite, « une variante du cadavre exquis ». Bon, je vais donc essayer de vous exposer les raisons qui m'ont amené à considérer que, dans la longue histoire de l'Oulipo, l'année 1966 a constitué un véritable tournant. Et comme je suis un peu historien, je vais m'appuyer sur un ensemble de documents empruntés aux archives de l'Oulipo. Archives que j'ai eu le plaisir de détenir chez moi pendant quelques dizaines d'années. Mais auparavant, je vais quand même. Je pense qu'il n'est quand même pas inutile de rappeler à l'intention de ceux à qui le nom de l'Oulipo et l'histoire de l'Oulipo ne seraient pas tout à fait familiers, rappeler ce que c'est. Donc l'Oulipo de sa naissance à 1966. L'Oulipo, c'est donc ce petit groupe singulier qui s'est constitué à l'automne 1960 à la suite d'une décade de Cerisy-Lassalle, consacrée à l'œuvre de Raymond Queneau. Le groupe s'est d'abord très brièvement appelé « Séminaire de littérature expérimentale », ce qui donne une idée de ce que ça pouvait être, avant de prendre ce nom d'ouvroir de littérature potentielle, en abrégé, ou LIPO. À l'origine du groupe, il y a deux hommes aussi remarquables l'un que l'autre, même s'ils n'ont pas bénéficié de la même notoriété. L'un est Raymond Queneau, qu'il n'est pas besoin de présenter, sinon pour rappeler qu'en 1960, il venait de connaître son premier grand succès populaire avec Zazie dans le métro, paru en 59. L'autre est son vieux complice intellectuel, François Le Lyonnais, dont le nom est évidemment beaucoup moins familier au grand public, à tort à mon avis. Mathématicien, ingénieur chimiste de formation, ancien résistant, ancien déporté, il a fait carrière comme conseiller scientifique d'innombrables organismes publics ou privés, et c'est en outre un spécialiste mondialement connu de la théorie du jeu d'échecs. C'est enfin un prodigieux agitateur d'idées, à la culture encyclopédique, à la curiosité universelle, au point que l'on a pu dire de lui que c'était avant tout un collectionneur de savoir. Autour de ces deux pères fondateurs, le groupe va réunir un certain nombre de personnalités qui ont au moins deux points communs. D'une part, ce sont des amis ou des admirateurs de Queneau, puisqu'ils se sont rencontrés à l'occasion d'un colloque sur Queneau. D'autre part, ce sont soit des écrivains souhaitant la symbiose avec les mathématiques, comme Queneau lui-même, soit des mathématiciens fortement intéressés par la littérature, comme Le Lyonnais ou Berge. Mais ils se caractérisent aussi par leur commune aptitude à transcender les frontières disciplinaires. On trouve ainsi dans le noyau initial Jacques Bins, écrivain, mais qui a fait des études de sciences naturelles, Claude Berge, mathématicien, spécialiste de la théorie des graphes, mais aussi sculpteur, connaisseur de l'art asmat, peuple de Nouvelle-Guinée, Jean Lescure, résistant, poète, passionné de cinéma, André Blavier, belge, poète et bibliothécaire, Jean Queval, poète, écrivain, scénariste, traducteur, Albert-Marie Schmitt, dont il sera longuement question tout à l'heure, universitaire et critique littéraire, Jacques Duchâteau, écrivain et homme de radio. Voilà donc le premier noyau. Et à ce noyau viendront très vite s'agréger, dès la deuxième séance, Lattice, philosophe et pataphysicien, Noël Arnaud, ancien surréaliste passé lui aussi à la pataphysique, et Paul Brafort, ingénieur atomiste, mais aussi poète, compositeur et chanteur. Vous voyez donc le type de personnage que nous avons là. À quoi cela rimait-il donc, de la part de Queneau et Le Lyonnais, de réunir tout ce beau monde? Pour le comprendre, il faut se souvenir que Louis Lippo est donc né en 1960 dans un contexte historique particulier, ce début des années 60, au moment marqué par l'émergence de ce que l'on a pu appeler des avant-gardes bruyantes, telles qu'elles le nouveau roman, le structuralisme, et par la remise en question d'une double série d'illusions, les illusions du surréalisme attachées à la liberté que donnerait à l'écrivain la dictée de l'inconscient, et les illusions de l'engagement de type sartrien attachées à la bonne conscience que donnerait à l'écrivain la dictée de la morale. Le projet oulipien, qui ne se veut ni avant-gardiste, surtout pas, ni bruyant, encore moins, est en rupture totale avec ces illusions. Il repose sur une idée simple, interroger les mathématiques et plus généralement les sciences pour tenter d'élaborer des formes, des structures nouvelles susceptibles de servir de support à des œuvres littéraires. S'inspirant du modèle que lui donnait le groupe Bourbaki, qui dans les années 30 avait entrepris la tâche de donner un fondement solide aux mathématiques, le groupe en vient assez rapidement à adopter un outil stratégique particulier, la contrainte, comme équivalent pour la littérature de l'outil stratégique qu'était pour les mathématiques, chez Bourbaki, la méthode axiomatique. Le projet oulipien va donc reposer sur une exploration méthodique, systématique des potentialités, autrement dit des virtualités de la littérature et plus généralement du langage. D'où la nécessité, très vite apparue, de s'engager dans deux directions. La première est celle qui mène à l'invention de contraintes nouvelles. Comment ? Par l'importation de concepts mathématiques ou plus généralement scientifiques, par l'utilisation des ressources de la combinatoire, dont Queneau avait donné l'année même de la naissance de l'Oulipo un exemple emblématique avec ses fameux 100 000 milliards de poèmes. On trouve là le pourquoi de cette formule puisée dans les toutes premières publications du groupe et qui a fait fortune depuis. Elle définit les Oulipiens comme des rats qui ont à construire le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. La deuxième direction est celle qui mène à explorer les œuvres d'auteurs du passé, passé proche ou passé lointain, parfois même très lointain, remontant aux origines même de certaines traditions littéraires, pour y retrouver les traces de l'utilisation de structures, de formes, ou plus généralement de contraintes, réutilisables le cas échéant. Ces auteurs sont ceux que François Le Lyonnais avait appelés, en une formule qui a rencontré depuis un certain succès, des plagiaires par anticipation. C'est donc dans cet esprit que le groupe travaille, dans une grande discrétion et au rythme d'une réunion chaque mois, chaque réunion apportant obligatoirement son lot de création et d'érudition, comme en témoigne avec éloquence et humour pour la période 1960 à 1963 les comptes rendus rédigés par mon lointain prédécesseur au secrétariat, à savoir Jacques Bains. Voilà donc, archi-brièvement, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que l'Oulipo, ce qu'on pouvait en dire. Alors, où en est l'Oulipo en 1966 ? Au cours de l'année 66, survient un événement particulièrement important et particulièrement malheureux dans la vie de l'Oulipo, le décès accidentel et précoce d'Albert-Marie Schmitt, une figure absolument remarquable du microcosme oulipien, universitaire, critique littéraire, érudit, mais aussi poète, essayiste. Il a joué un rôle clé dans l'entreprise oulipienne dès ses débuts. C'est lui qui est le responsable du nom du groupe. C'est lui qui a proposé de substituer à la banale dénomination Célitex, dont il trouvait qu'elle ressemblait à un nom de préservatif, il lui a substitué le nom de Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Sa profonde connaissance de l'histoire littéraire, notamment celle de la Renaissance et des grands rhétoriqueurs, lui permettait d'être un inlassable inventeur de plagiaires par anticipation. C'est lui en particulier qui présenta aux Oulipiens des personnages tels que Jean-Baptiste Chassignier et ses sonnets, Marc Papillon, seigneur de Lasfrise et ses énigmes, ou De Pilis et son merveilleux poème sur l'harmonie imitative de la langue française. Dans un très bref et mais très émouvant, ce qui n'était pas tout à fait la tonalité habituelle de Queneau, témoignage, intitulé « Notre ami », qui se trouve en tête de l'ouvrage posthume d'Albert-Marie Schmitt, étude sur le XVIe siècle, Raymond Queneau n'hésite pas à le présenter comme cofondateur avec François Le Lyonnais et moi-même, de l'ouvroir de littérature. Queneau ajoute même à son propos une information assez intéressante. Il avait eu le même psychanalyste qu'Albert-Marie Schmitt et cela, dit-il, avait développé en lui un sentiment de fraternité à son égard. Tout cela pour vous dire donc qu'on peut mesurer le vide qu'a dû créer cette brusque disparition, la première qui affectait le groupe. On peut donc imaginer qu'en réaction, l'idée de procéder à une cooptation pour combler ce vide a pu commencer à germer dans l'esprit de certains oulipiens et particulièrement dans l'esprit de Queneau. Il faut ici rappeler que jusque-là, l'Oulipo, dont je vous avais donné les membres, ne s'était guère soucié de s'étendre, pour une raison d'ordre éminemment pratique, que nous, appuyés sur ce point d'ailleurs par Albert-Marie Schmitt, jugeaient, je cite, « qu'au-dessus d'une dizaine de membres, aucun travail n'est plus profitable ». Il y avait eu, certes, l'élection de quelques rares correspondants étrangers, Ross Chambers, Stanley Chapman, Marcel Duchamp, mais cela, du fait de leur éloignement géographique, Chambers en Australie, Chapman en Angleterre, Duchamp en Amérique, ne risquaient guère d'encombrer la table des réunions. Je rappellerai à titre d'exemple que Marcel Duchamp, élu correspondant étranger le 16 mars 1962, ne participa à sa première réunion que le 25 juin 1965. Il y avait eu aussi, à part les correspondants étrangers, l'introduction et l'utilisation de collaborateurs qu'on désignait du nom un peu condescendant de esclaves. Mais ce n'étaient que des auxiliaires occasionnels, généralement jeunes et pleins de bonne volonté, appelés pour accomplir les besognes auxquelles les fondateurs, qui tenaient beaucoup à ce titre et aux privilèges intellectuels y attachés, n'avaient ni le temps ni l'envie de s'attaquer. Donc, si le choc créé par la disparition d'Albert Mareschmidt favorise un changement d'altitude, une prédisposition nouvelle à l'ouverture, c'est que cet esprit d'ouverture va trouver, providentiellement, à s'exercer au bénéfice d'un personnage un peu particulier, qui est Jacques Roubaud. Jacques Roubaud, donc, avant 1966. Avant sa rencontre avec Lou Lippo, qui est donc Jacques Roubaud, c'est, au plan universitaire, un maître assistant de mathématiques, comme on disait alors pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui maître de conférence. Il est jeune, il n'a que 33 ans, et il a cette particularité de n'être devenu matheux qu'après s'être un temps essayé à des études de lettres. C'est assez rare de voir un hippocagneux qui passe en hippotaupe l'année suivante. Au plan littéraire, c'est un... Mais Antoine en est un exemple. Au plan littéraire, c'est un poète qui n'a encore que très peu publié, mais qui avoue qu'il écrit quotidiennement des sonnets depuis 1962. Son travail d'écriture, dit-il, tourne autour de plusieurs projets. Un projet de mathématiques, un projet de poésie et un projet de roman intitulé « Le grand incendie de Londres ». La dispersion de ces projets n'est qu'apparente à ses yeux et s'accompagne au contraire du sentiment intime d'une grande cohérence. Au printemps 65, il a accompli un grand pas dans l'avancement d'un de ses projets, le projet de poésie. Il a fait le choix d'un modèle de composition pour son livre en cours, modèle peu banal, puisqu'il s'agit de rien moins que d'une partie du jeu de Go. Par ce choix, déclara-t-il beaucoup plus tard, il se rapprochait des principes d'une écriture sous contraintes explicites, formelles, et se mettait à faire de l'oulipisme sans le savoir. En effet, à cette époque-là, peu de gens connaissaient Lou Lippo et Jacques Roubaud ne le connaissait pas. Mais il ajoute aussi... Ce premier pas, la fin de son projet de poésie, ce premier pas est suivi au début de l'année 66 d'une nouvelle avancée. En quelques semaines, Jacques Roubaud achève la rédaction de sa thèse de mathématiques. Comme le projet de mathématiques qui se confondait avec cette thèse est donc fini dès ce moment-là. Mais dans la mesure, dit-il, où le travail mathématique servait de base continue au travail poétique sur les sonnets, cette avancée provoque un blocage du projet de poésie. Jacques Roubaud ressent alors la nécessité de s'adresser, dit-il, à quelque autorité éditoriale pour s'assurer que, je cite, « le projet de poésie finirait dans les mêmes conditions favorables que le premier, l'acceptation, ou qu'il ne pourrait pas finir ainsi ». L'autorité en question, c'est évidemment Raymond Queneau, que Roubaud ne connaît pas, mais pour l'œuvre duquel il éprouve depuis très longtemps respect et admiration. C'est donc à Queneau qu'est envoyé en mars 1966 le manuscrit des poèmes de Roubaud. Au bout de 2 ou 3 semaines arrive la réponse de Queneau sous la forme d'une invitation. Jacques Roubaud découvre donc, en avril 1966, le minuscule espace qui servait de bureau à Queneau dans les bâtiments de la rue Sébastien-Bottin. L'entretien porte essentiellement sur les mathématiques et c'est seulement au moment de l'adieu que Queneau annonce à son visiteur qu'il défendra ses poèmes auprès du comité de lecture de Gallimard. Le livre est donc accepté en 66, mais il ne paraîtra qu'en 67. Le projet de poésie se trouve ainsi validé quelques semaines seulement après le projet de mathématiques. Pour Jacques Roubaud, une première séquence vient de se clore. La séquence suivante est celle qui va faire du jeune poète mathématicien le premier membre de la deuxième génération oulipienne. Grâce aux archives, nous allons pouvoir en reconstituer avec une certaine précision les étapes. Première étape, apparition du nom de Roubaud chez les oulipiens. Un peu difficile à voir, mais... Le premier document contenant le nom de Roubaud est l'ordre du jour de la réunion du 23 août 66. Il y apparaît à 2 reprises. 1. Revigorisation, littératurisation et poème de Roubaud. Vous voyez, c'est le petit premièrement. Et puis ensuite, un peu plus bas, Roubaud, entre parenthèses, Go. Cette double apparition est la suite logique de la rencontre avec Queneau. Queneau, conquis par le travail poétique de Roubaud, qu'il a découvert donc au printemps, présente officiellement à ses amis le travail de Roubaud. Quelques détails méritent de relever la mention, d'être relevés. La mention « poème » de Roubaud est juxtaposée à deux notions auxquelles elle sert en quelque sorte d'illustration. Notion désignée par deux néologismes tout à fait transparents, « revigorisation », « littératurisation ». On peut comprendre sans difficulté que la revigorisation en question est cette recherche d'une vigueur nouvelle dont les Oulipiens ont ressenti le besoin à la suite du décès d'Albert-Marie Schmitt. Quant à la littératurisation, on peut admettre l'hypothèse qu'elle désigne le procédé cher aux Oulipiens qui consiste à transformer en structure littéraire une structure empruntée à une autre discipline. Ce procédé est précisément celui qui est à l'œuvre dans les poèmes de Roubaud, puisque les poèmes sont structurés comme une partie de Go. La deuxième mention de Roubaud est explicitement liée au jeu de Go, ce qui confirme, s'il en était besoin, que c'est bien cet aspect du travail poétique roubaldien qui a intéressé les Oulipiens. Il est regrettable que les archives n'aient pas gardé des traces plus précises de la double intervention de Queneau. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle a produit un certain effet sur l'auditoire, puisque pas plus tard qu'à la réunion du 4 novembre 1966, on va retrouver Roubaud comme invité d'honneur. Nous avons la chance d'avoir deux documents d'archives qui concernent cette réunion. Un exemplaire de l'ordre du jour où il est question de Jacques Roubaud et de sa communication « Application d'Hugo ». Mais cette communication n'est pas restée limitée au Go, puisqu'on trouve sur... Je ne l'ai plus malheureusement, il s'est égaré. On trouve donc sur ce document une annotation manuscrite de François Le Lyonnais, Le Coquinchou, Anthologie impériale. On peut donc en conclure que Roubaud a dû dérouler devant les Oulipiens un vaste panorama de la tradition poétique japonaise, dont il était à l'époque un des rares connaisseurs en France. Ce qui explique l'enthousiasme de François Le Lyonnais, qui parle dans le deuxième document, celui que vous voyez à l'écran, il parle de notre réunion de ce jour, brillamment illustrée par une passionnante communication de Jacques Roubaud. Donc, Queneau a présenté l'œuvre de Roubaud, Roubaud a été invité d'honneur. Il y a une troisième étape maintenant, les suites de cette réunion ne se font pas attendre. Et ce sera la troisième étape. Dans le courant de ce même mois de novembre, les Oulipiens prennent la décision d'élire Jacques Roubaud. Événement de taille, attesté par un document particulièrement précieux, la lettre de remerciement manuscrite adressée par Jacques Roubaud à François Le Lyonnais en date du 27 novembre. Cette lettre se compose de deux parties bien distinctes. La première est consacrée aux suites pratiques de la réunion du 4. La seconde est un post-scriptum de trois lignes. On y apprend que Le Lyonnais vient de téléphoner à Roubaud pour lui annoncer qu'il a été coopté, ce dont l'heureux élu se déclare extrêmement flatté. « Plus que je ne peux dire », ajoute-t-il même, ce qui le dispense d'aller plus loin dans l'effusion. Cette cooptation a dû être décidée au cours de la réunion du 25 novembre. Il n'a donc fallu aux Oulipiens que trois semaines pour transformer l'invité d'honneur en membre de plein droit. Visiblement, ils étaient impatients de s'adjoindre les talents d'un jeune homme aux dons si manifestes et qui incarnait si heureusement leur idéal de fusion harmonieuse entre littérature et mathématiques. Mais il reste une quatrième étape, et elle est importante. Reste donc au nouvel Oulipien à faire son entrée officielle dans le groupe. Et là, un heureux concours de circonstances a voulu que cet événement prenne place, non pas au cours d'une des réunions mensuelles ordinaires, mais dans un contexte nettement plus solennel, c'est-à-dire à l'occasion d'un congrès, le congrès dit du sixième centenaire. Nous sommes en 1966. Hein. Alors, pourquoi sixième centenaire ? Bien parce que les Oulipiens avaient et ont toujours l'habitude de considérer qu'une année de travail oulipien équivaut à un siècle normal, d'où la dénomination de centenaire. À ce propos, je vous rappelle donc que l'Oulipo, l'an dernier, en novembre dernier, a fêté son 5e millénaire. Les Oulipiens, donc, se réunissaient en congrès 2 ou 3 jours durant, ce qui leur permettait d'examiner, de confronter, plus à loisir que dans les réunions ordinaires, leurs travaux, leurs découvertes, leurs projets. La date de ce congrès, d'abord prévue pour le 26 et 27 décembre 1966, pour faire plaisir à Antoine Compagnon, a été malheureusement reportée de quelques jours et fixée au 2 ou 3 janvier, mais bon, on l'admettra quand même. Nous avons la chance d'avoir un projet d'ordre du jour dactylographié par François Le Lyonnais avant le début du congrès et complété ensuite de notations manuscrites. Ce document comporte de nouveau 2 mentions de Roubaud. D'abord, dans la première partie, donc avant les propos, François Le Lyonnais a prévu de prononcer une allocution d'ouverture dont le point 1 est intitulé « Importance et solennité du congrès » et le point 2 « Accueil et intronisation de Jacques Roubaud ». Il n'est pas interdit de penser que dans l'esprit du président fondateur, ces 2 points étaient assez étroitement liés et qu'une partie au moins de l'importance et de la solennité du congrès était précisément due à l'intronisation du nouveau membre. La seconde mention manuscrite figure dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie du document, sous la rubrique création, et où le nouveau membre s'est fait inscrire pour une intervention intitulée production automatique. Production automatique. Vous le voyez ? C'est le point petit C en haut. Non, ça ne se voit pas. Pardon. Ah. Non, alors, me serais-je trompé? Si, c'est là. Hein. Oui, c'est pas facile à lire. En tout cas, voilà. C'est production automatique Roubaud. Voilà. Alors là, nous avons un titre qui nécessite quelques explications, car il nous met sur une nouvelle piste. En effet, il ne concerne pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une création de Jacques Roubaud lui-même. Il renvoie à la production automatique de littérature française, en abrégé PALF, qui désigne ce travail dont Antoine Compagnon a parlé tout à l'heure, effectué par Georges Perec et moi-même au cours de l'année 1966. Travail qui avait été entamé, en fait, à la fin de l'automne 1965, juste après l'attribution à Perec du prix Renaudot pour son premier roman publié, Les Choses. Et travail qui avait été poursuivi, pendant toute l'année 1966. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un exercice de littérature définitionnelle, dont le principe était le suivant : étant donné un texte, remplacer chaque mot signifiant de ce texte, donc les substantifs, les adjectifs, les verbes, par une de ces définitions dans un dictionnaire donné, puis réitérer l'opération sur le nouveau texte obtenu et réitérer ensuite encore l'opération et ainsi de suite, ce qui permet effectivement de produire automatiquement de la littérature française, puisque partie de prolétaires de tous les pays, unissez-vous, nous sommes arrivés très vite à des textes qui avaient 2 ou 3 pages. Donc, voilà ce dont Roubaud parlait ce jour-là. Comment avait-il été amené à parler de cela ? Eh bien, ce travail était arrivé entre ses mains moins de 2 jours auparavant. Le congrès a lieu le 2 janvier. Eh bien, ce texte lui avait été donné le 31 décembre, puisque nous l'avions lu chez lui le 31 décembre à la Saint-Sylvestre. Et au terme de cette lecture, Roubaud, enthousiaste, nous avait pris à part pour nous informer qu'il souhaitait présenter notre texte à un petit groupe dont nous n'avions donc jamais entendu parler et au sein duquel il venait d'être admis. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le jour même où il est solennellement accueilli pour la première fois comme membre par les Oulipiens, Jacques Roubaud n'hésite pas à faire état du travail de ses amis Pérec et Benabou. Démarche qui ne resta pas sans conséquence, puisqu'elle allait amener l'Oulipo à faire un pas de plus vers l'ouverture en procédant avec une remarquable célérité à la cooptation de Georges Pérec, comme le montrent de nouveaux documents que je n'ai pas pris, que je n'ai pas pris la peine de vous montrer, mais voilà, je vous ai montré quelques documents, vous pouvez me faire confiance. Une convocation datée du 6 mars 1967, où François Le Lyonnais annonce que la réunion prévue pour le 22 mars 67, aura pour invité d'honneur Pérec, amené par Roubaud, SIC, et une lettre de Jacques Roubaud à François Le Lyonnais, datée du 18 juin, où figure le post-scriptum suivant. « J'ai transmis à Georges Pérec la proposition qui lui est faite d'appartenir à l'Oulipo. Il en est très honoré et ravi. » L'élection a donc eu lieu, très vraisemblablement, au cours d'une des deux réunions qui ont précédé cette lettre, celle du 16 mai ou celle du 3 juin. Il me plaît d'opter pour la réunion du 16 mai parce que c'est une des rares réunions auxquelles Marcel Duchamp fut présent et je tiens vraiment beaucoup à ce que Marcel Duchamp ait voté pour Georges Pérec. Je reviens, si vous le voulez bien, sur l'ordre du jour de janvier 67, car il comporte une autre information importante. J'espère, celle-là, je crois qu'elle est un peu plus lisible. Non, Claude Berge. Oui, voilà. Ah. Les carrés latins en littérature. Oui, c'est le point 4. Voilà. Carré latin en littérature. Alors, ce mot pour les connaisseurs de Pérec, ce mot de carré latin devrait évoquer quelque chose. Un carré latin est donc un tableau de n lignes, un tableau carré de n lignes et n colonnes rempli de n éléments distincts, dont chaque ligne et chaque colonne ne contient qu'un seul exemplaire. C'est-à-dire que on ne trouve jamais dans une ligne ou dans une colonne deux fois le même élément. Or, ce carré latin a joué un rôle particulièrement important dans la vie de Pérec, puisque quelques années plus tard, Pérec allait faire de cette figure le carré latin, ou plutôt d'une de ses variantes un peu plus complexes, le carré bilatin, une des matrices fondamentales de la vie mode d'emploi. Donc, avant même que Pérec n'ait été membre de l'Oulipo, donc le jour où Roubaud entre pour la première fois à l'Oulipo, il est question de carré latin à l'Oulipo, et on ne sera donc pas étonné qu'une partie du travail mathématique qui a été nécessaire à Pérec pour l'élaboration du cahier des charges de la vie mode d'emploi lui ait été fournie par ses amis oulipiens Claude Berge et Raymond Queneau et Jacques Roubaud. Et ceci, ce n'est pas tout à fait au cours de l'année 66, mais ça sera au cours de l'année 67. Ainsi, dans un espace de temps relativement restreint, axé autour de l'année 66, les Oulipiens, qui pendant les 6 précédentes années s'étaient montrés plutôt frileux en matière de cooptation, n'ont pas hésité à s'adjoindre deux nouveaux membres qui n'appartenaient ni à la génération, ni au milieu, essentiellement pataphysique, auquel appartenaient la plupart des membres fondateurs. C'est ce que je me suis permis d'appeler le trou, T-R-O-U, tournant roubaldien de l'Oulipo, qui vient tout naturellement compléter le tour c'est-à-dire le tournant oulipien de Roubaud, que Roubaud lui-même présente ainsi. « Mon entrée à l'Oulipo a décidé du reste de ma vie de joueur du langage, et je m'en rends compte a posteriori d'une bonne partie des années qui ont précédé. Pas seulement en bouleversant peu à peu nombre de mes idées antérieures sur la composition de poésie, sur la nature de la littérature, du langage, etc. » Alors, j'avais prévu une fin sur ce qui a changé depuis 1966. Je résume, j'abrège. Donc, ce qui a changé depuis 1966, eh bien, pourquoi c'est un tournant ? C'est d'abord la continuation de l'ouverture, ce premier pas étant fait, le premier pas étant toujours le plus difficile. L'Oulipo s'est mis à coopter de nouveaux membres, votre serviteur et quelques autres. Deuxième chose, la naissance d'œuvres oulipiennes. Avec cette introduction massive de sang frais, la production oulipienne s'est radicalement transformée, enfin, pas radicalement, parce qu'elle est passée d'un ensemble d'exercices où certains, de plus ou moins bonne foi, affectaient de ne voir que des jeux sans véritable intérêt littéraire. Hein. Souvenez-vous de la continuation du ce que disait Jeannette, donc, l'expression m'échappe, du cadavre exquis. Donc, le passage de ce genre de jeu à la production d'œuvres véritables, aussi importantes que La disparition ou la vie mode d'emploi de Georges Perec, Si par une nuit d'hiver un voyageur d'Italo Calvino, Cigarette d'Harry Matthews, ou la série de La belle Hortense de Jacques Roubaud, pour ne citer que les plus connus. Et enfin, l'Oulipo a réussi à avoir une beaucoup plus grande visibilité. Il est passé de la quasi-clandestinité des débuts à la grande lumière d'aujourd'hui, marquée par la multiplication des activités, publication d'ouvrages collectifs, lecture publique régulière, fréquence croissante dans la critique des références qui sont faites à l'approche oulipienne de l'activité littéraire, fécondité de la contrainte, importance des structures. Même si l'on affecte parfois de ne voir qu'exhibition de virtuosité, là où l'Oulipo prétend se livrer à une exploration de virtualité. Et puisque nous sommes dans une institution vouée à l'enseignement, je ne puis manquer de signaler, pour terminer, l'entrée massive de certains exercices oulipiens dans les manuels d'enseignement du français, de l'école maternelle à l'université, comme s'y était en train de se réaliser la prédiction que Queneau avait faite en conclusion du dernier article de Bâton, chiffres et lettres, je cite, « Puisqu'il n'y a plus d'espoir de ressusciter le thème latin, ce merveilleux exercice qui faisait le point entre la dissertation française et le problème de géométrie, peut-être cette fonction pourrait-elle être remplie par des travaux oulipiens de littérature potentielle. Ma démonstration aurait été parfaite si cette déclaration datait de 1966. En fait, je dois à la vérité de vous dire qu'elle est de 1965, mais nul ne s'étonnera que Queneau ait pu être, en l'occurrence, et une fois de plus, légèrement en avance sur son temps. Je vous remercie. Voilà. Il y a 10 minutes qui ont sauté.
Merci pour cet exercice de philologie oulipienne qui nous a ramenés à l'exploration de ces archives. Mais il me semble que dans une des leçons que j'ai faites, j'évoquais la publication de Bâton, chiffres et lettres dans la collection Idées, collection de poches un peu savante, un peu prestigieuse, où il y avait également des inédits. C'est 65 ou 66, cette édition de...
C'est 65.
C'est 65.
Je l'ai vérifié tout à l'heure.
Ah oui, elle est de 65.
Parce que qui est une deuxième édition.
Oui, le volume date de la fin des années 40.
C'est ça.
Mais c'est effectivement l'une des... Il fait partie de cette vague de ce que j'avais appelé dans une leçon, ce nouveau livre de poche qui apparaît à partir de 63 et dont le moment... À mon avis, l'acmé, c'est 65-66. En gros, ce livre de poche beaucoup plus savant. Et effectivement, Bâton, chiffres et lettres est un des livres qui... Donc, il y avait une couverture dans les bleus-rouges, hein, et qui était une des... Enfin, assez emblématique de cette visibilité que tu décrivais. Il me semble aussi que, dans la leçon de tout à l'heure, je rappelais... ce premier numéro de la Quinzaine littéraire en mars 1966, il me semble me rappeler qu'il y a un article d'Albert-Marie Schmitt, déjà mort. Et on donne l'article qui était prêt, puisque comme c'était le premier numéro, il devait déjà être préparé, et avec une petite nécrologie.
Oui, il est mort d'un accident de voiture, il est mort renversé par une voiture.
Début de l'année, alors ?
Au début de
l'année. Donc en mars, dans le premier numéro de la Quinzaine littéraire, il y avait un article de lui et l'annonce de sa mort. Alors bien sûr, moi je me rappelle d'Epsilon de...
Oui, enfin, Hugo. Signe d'appartenance.
Oui, Signe d'appartenance, c'est publié en 1967.
Voilà.
Donc je crois que tu n'as pas donné le titre en parlant tout à l'heure.
Oui, effectivement, le poème, le recueil s'appelle...
Oui, signe, c'est un signe d'appartenance, Epsilon majuscule.
Ouais.
Et il est, effectivement, c'est ce livre de Roubaud qui l'a fait connaître.
Absolument.
Un livre qui était un livre assez remarquable.
C'est un livre absolument remarquable.
Et alors, bon, moi, je n'en connaissais pas l'histoire, la genèse que tu racontais, mais je me souvenais, je sais que c'est bien que c'est un livre de 1967. Mais donc, effectivement, quand ça revient, c'est un problème que j'ai souvent rencontré dans ce cours, c'est la nécessité de parler de livres de 1967, parce que leur vie...
Oui, ils ont été élaborés.
Leur élaboration est là, et c'est souvent... Enfin, à la fois, ce qui est intéressant en parlant d'une année, c'est la réception d'un certain nombre de livres, et puis c'est aussi la genèse de ceux qui vont...
Oui, il est vraiment difficile, en tout cas dans l'histoire de l'Oulipo, bien que, comme tu peux voir, l'année 66 a été centrale, mais elle a été centrale avec un petit peu avant et un petit peu après.
C'est ça. Effectivement, moi j'ai commencé à parler avec les choses qui paraissent à l'automne. Aujourd'hui, je crois que c'était la première fois que je mentionnais le petit vélo.
Oui.
Le petit vélo
guidon chromé au fond de la cour.
Qui est publié au printemps de 1966, qui je suppose est est publié dans les retombées du prix Renaudot.
Tout à fait.
Un petit texte qui devait être
tout
prêt.
À fait, absolument. Et, mais il était prêt depuis très longtemps.
Voilà. Oui, puisque c'est un texte sur la guerre d'Algérie. Un texte sur la guerre d'Algérie. Donc on a le sentiment. Je l'ai relu là ce week-end, parce que je voulais en parler un peu avant ta venue. On a le sentiment, au fond, qu'il est écrit même avant les choses.
Il est écrit en interstice des choses. Les choses à demander plusieurs années.
Alors que celui-là est vraiment lié à l'expérience du service militaire.
Tout à fait.
Et donc un service militaire dans le contexte de la guerre d'Algérie.
Absolument.
Et du départ en Algérie. Alors que dans les choses, il y a l'après-guerre d'Algérie. La fin de la guerre d'Algérie, c'est un peu
oui,
dans ce sens-là que
j'ai c'est vraiment la société de consommation qui commence juste
après la guerre d'Algérie.
Après, une fois qu'on est débarrassé du fardeau d'Algérie.
Ça commence avant, mais la guerre d'Algérie intervient comme une fin. J'avais aussi envie de t'interroger sur... Dans beaucoup de leçons, j'ai été amené à parler de Jean-Pierre Fay,
oui.
Là aussi, c'était en faisant ce cours, avant de faire ce cours, je m'étais pas bien rendu compte de son omniprésence dans cette année-là, sa présence dans beaucoup de publications, de périodiques, du Nouvel Observateur, aux Lettres françaises, enfin, il est partout. Et là, il va y avoir un rapprochement avec Roubaud, mais après, pas encore en 66, déjà.
À ce moment-là.
Parce que l'expérience de change, bon, c'est donc un peu après, quand Jean-Pierre Fay se sépare de tel quel.
C'est ça, exactement.
Il crée avec Roubaud, Mitsurana, et ensemble ils créent l'anti tel quel. Mais c'était peut-être pas encore cette année-là. Il y avait pas. Il était encore tout à fait engagé dans tel quel. Et toi, tu as rejoint l'Oulipo à quel moment ?
En 69.
69.
Oui, parce qu'après, une fois qu'ils ont coopté Jacques et Georges, enfin,
Parle dans le
oui, pardon. Une fois qu'ils ont coopté Jacques Roubaud et Georges Perec, il fallait les digérer. Donc, il a fallu 2 ans pour qu'ils reprennent le mouvement de cooptation, et j'ai été coopté en même temps que Luc Étienne, le grand spécialiste de l'album de la comtesse au canard enchaîné. Comme quoi, un professeur d'histoire romaine et un spécialiste du contre-p, c'est très oulipien. on ne peut plus voir, c'est dommage. Oui.
Quoi ? Ah oui, tu n'as pas commenté. Oui,
j'ai pas commenté. On peut juste une seconde si.
Je ne sais pas si on nous entend. Je ne sais pas s'il y a encore.
Bon, c'est pas grave.
On peut baisser la lumière ? Si. Si, il m'entend ? Je sais pas si. Ah oui, si, on m'entend encore.
Ah, mais c'est. Ah, c'est un superbe diagramme.
Ah oui, mais je ne sais pas comment. Non, mais ça marche.
Ah.
Quoi ?
Ça arrive.
Ah oui, ça arrive. Voilà.
Alors, juste un mot sur ce diagramme. Vous voyez, dans le cercle en gras, il y a l'ensemble des membres fondateurs, avec Queneau, père fondateur, Le Lyonnais, président fondateur, donc désignés tous par leurs initiales. Et puis, autour du cercle, il y a, avec la date, leur date de cooptation, les nouveaux membres. Et ce graphe s'appelle le grand graphe généalogique, parce qu'on a essayé de faire figurer les filiations. Donc on voit que Jacques Roubaud qui est là.
Où est-ce qu'il est ?
Voilà. Là, 1966, non, tu baisses. Voilà. Jacques Roubaud est là, vous voyez, il est tangent. Et regardez tout ce qui sort de Jacques Roubaud. Vous voyez, tout ce qui est à droite du tableau.
Ah oui, tout ça.
Tout ce qui est à droite du tableau est peu ou prou consécutif à l'entrée de Jacques Roubaud. Vous voyez que c'est vraiment un tournant. Voilà, je tenais à vous montrer ça. C'eût été dommage que vous ne le vissiez point.
Et je me rends compte, évidemment, je me rends compte à la fin de ce cours et de ce séminaire d'un certain nombre d'acteurs majeur, dont je n'avais pas vraiment l'idée en commençant, puisque je suis lancé dans cette recherche sans trop savoir, que j'aurais pu ou dû faire venir dans une sorte de séminaire final, hein, de journée finale. J'évoquais Jean-Pierre Fay, que j'ai retrouvé partout, Roubaud, effectivement. J'ai cité de nouveau tout à l'heure Raymond Bellour. Qui est partout dans cette époque. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de gens sur les noms desquels je suis tombé tout le temps en préparant ce cours, qu'il aurait valu la peine de réunir pour une sorte de discussion finale.
Grande discussion.
Mais
commune.
Bon, c'était. J'aurais dû m'en rendre compte beaucoup plus tôt. Voilà, bah, écoute. Merci beaucoup d'avoir
merci
terminé avec l'Oulipo.